People cocaine still sleeps with a magnum. People cocaine still sleeps with a magnum. There's a made face here. Through the wall. My car is a mess. The resupply. La majeure russe. Tous les jours. 14h05. Sur GTFM. Préparé. Cocaïne. People with cocaine still sleep with a magnum.
Bergerus 1024. L'ensemble de la guerre. Ou la dualité des unis. Non acceptée. Le soi malmené par les convictions et souvent infondées d'autrui. Pour introduire cette dualité, j'ai choisi de faire intervenir les mythes d'Apollon et Dionysos, avec l'aide bien sûr du professeur Schmidbly.
Oui, merci, c'est gentil à vous. Oui, Johnny Tiffet, je vous remercie beaucoup. Oui, parce que vous avez fait parler beaucoup de Nietzsche. J'étais très content d'entendre cet engouement pour Nietzsche. Et j'aurais voulu partager, j'aurais voulu être là. Vous ne m'avez pas invité. Je comprends, je ne suis pas non plus... je suis pas... Vous avez le droit, bien sûr, de faire vos émissions, cher Johnny Tiffet. Je ne peux pas... m'incruster, comme on dit. Non, je ne le souhaite pas. Non, mais j'ai regretté quand même.
Oh, ouais, professeur.
Je tenais à le dire.
Oui, mais c'est sympa. Mais bon, moi, je dirais que j'ai beaucoup aimé faire cette émission, la Bergerus 1023, donc la précédente. Je suis aussi ravi que vous. Mais je ne sais pas comment vous avez pu entendre, parce que je l'ai fait tout seul. Vous deviez.
Vous m'en avez parlé.
Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, mais en tout cas, oui, bah je regrette de ne pas vous avoir fait intervenir plus que ça. Je dirais que j'ai beaucoup parlé de Nietzsche avec Dionysos et Apollon d'ailleurs. Mais là, ça va être sympa. Hein?
Oui, oui, bien sûr. Oui, mais je vous remercie. Oui, c'est sympa. Oui.
Alors, donc. Je vais commencer cette invitation beaucoup plus, Johnny Tiffbeck. Parfois, avec Nietzsche, la vision dionysiaque du monde chez Alia. C'était déjà présent, je ne sais pas dans quelle. Première fois, en 1928, dans le troisième annuaire de la Société des Amis des Archives Nietzsche à Leipzig. La vision dionysiaque du monde. Ouais, donc, j'ai pris des petites parties. Alors, c'est parti. C'est à l'intérieur de ce monde, ainsi construit et artistiquement préservé, que vibra la sonorité extatique des fêtes dionysiaques. Oui, bien sûr. La démesure se révéla comme vérité, oui, dans toute l'ivresse d'un sentiment surpuissant. N'est-ce pas ? Quand nous sommes ivres, on se sent capable de faire des choses inatteignables. Nous sommes... dans ce cas, comme vous tiens, surhomme, le fait de surhomme, ah, c'était ça que vous avez parlé, le surhomme, oui, qui était proche de la religion iranienne, oui, où se sont construits des penchants soufistes, oui, avec le surhomme, l'homme parfait, où que nous étions tous en mesure d'être le surhomme de Nietzsche, et que nous étions tous des surhommes, encore fallait-il avoir connaissance de ce côté invisible. et savoir que tout est possible. Oui, oui, c'était remarquable d'ailleurs, remarquable. Oui, enfin, oui, j'étais à côté de vous en fait, vous ne m'avez pas vu. Oui, oui. Oui, revenons à nos moutons, n'est-ce pas, comme dirait Philippe K. Dick. Oui, bien sûr. La démesure se révéla comme vérité, n'est-ce pas? Parce que l'ivresse, donc, lors de l'ivresse, nous sommes vraiment. Nous pensons être à l'état de surhomme sans se poser de questions. Peut-être que la société actuelle est en ivresse. Elle se croit, elle pense pisser plus haut que son cul, comme on dit, n'est-ce pas? Oui. On coupe. La démesure, donc, se révéla comme vérité. S'il vous plaît, je ne suis pas. Ne me déconcentrez pas, je ne suis pas, s'il vous plaît. Pardon. Oui, donc, pour la première fois, grondèrent le chant démoniaque et passif. Oh, mais zut alors, je ne suis pas, arrêtez. Et fascinant du peuple dans toute l'ivresse d'un sentiment surpuissant. À côté de cela, que signifiait l'artiste psalmodiant d'Apollon? Avec les résonances craintives et à peine marquantes de sa. Oh, c'est du grec, ça, c'est bon. Cloissa. Oui, ce n'est pas vrai. L'harmonie entra dans le monde, donc à cet instant. L'entrée en conflit de l'élément dionysiaque avec sa propre production apollinienne. Quelle était l'intention de la volonté qui, cependant, est définitivement une pour autoriser l'entrée en conflit de l'élément dionysiaque avec sa propre production apollinienne? Une fois dans l'harmonie, quelle intention de la volonté? C'était cependant définitivement. Et par quoi, justement, nous sommes, donc, pour la bienséance, dans l'Apollon. Nous devons, pour que tout se passe bien. Ce n'est pas le cas, et nous ne le sommes pas tous en même temps ensemble dans ce monde. Mais qu'est-ce qui nous fait passer dans ce dionysiaque, dionysisme? L'extase. Le désir de l'extase. De l'état dionysiaque par sa destruction des dernières et des limites habituelles de l'existence implique, tandis qu'il dure, un élément léthargique au sein duquel s'immerge tout ce qui fut vécu par le passé, n'est-ce pas? C'est ainsi que, dans cet abîme de l'oubli, le monde de la réalité quotidienne se distingue de la réalité dionysiaque, n'est-ce pas? Donc, cette réalité dionysiaque, ce moment d'extase qui est le côté invisible, mais à laquelle nous sommes parvenus artificiellement, c'est-à-dire par des breuvages. Mais dès l'instant où cette réalité quotidienne revient à la conscience, on l'éprouve en tant que telle avec dégoût, n'est-ce pas? Une totalité de l'âme, ascétique, niant la volonté, est la conséquence de ces états. En pensée, on oppose l'ordre cosmique dionysiaque comme supérieur à un ordre vulgaire et mauvais. Le grec voulait absolument fuir le monde de la faute et du destin. Donc, pour ça qu'il buvait, le grec. Mais c'est valable aujourd'hui aussi. C'est une fuite. C'est connu, comme le loup blanc, je dirais. Oui. Le fait de boire, de prendre quelconque drogue, qu'elle soit licite ou illicite, c'est une. Volontairement. C'est, bon, au-delà des médicaments qui sont peut-être obligés, c'est une fuite de la réalité. Eh bien, c'est ce qui est dit déjà à l'époque. Les Grecs, mais ils se croyaient c'était un peu le centre du monde, les Grecs aussi, à cette époque-là, du monde entier, oui, bien sûr. Même si on ne connaissait pas le monde dans sa totalité encore. Voilà. C'est-à-dire. C'est à peine s'il espérait un monde après sa mort. Son désir allait au-delà. Il tendait vers les dieux. Il niait l'ensemble, ensemble, l'existence et son divin, miroitement synchrome et brillant. En reprenant conscience au réveil de l'ivresse, il voit surtout ce qu'il y a d'épouvantable et d'absurde dans l'être humain. Il en est dégoûté. Il comprend alors la sagesse du dieu des forêts. Il s'agissait surtout de sublimer cette pensée, dégoûtée de la terreur et de l'absurdité de l'existence, dans les représentations grâce auxquelles on se maintient en vie. Ce sont le sublime comme maîtrise artistique de l'horrible et le comique comme déversement du goût de l'absurde. Ces deux éléments mêlés l'un à l'autre sont conjugués dans une œuvre d'art qui imite l'ivresse, qui joue avec l'ivresse.
C'est orgasmique, cet état d'ivresse dont il parle. Le sublime et le comique, donc Apollon et Dionysos, font un pas au-delà du monde de la belle apparence. Au-delà du monde de la belle apparence. Au-delà. C'est beau. C'est très beau. Car dans les deux concepts, est éprouvée une contradiction. D'autre part, ils ne s'unissent en aucune façon à la vérité. Nullement. Ce sont les voiles enveloppant la vérité. Que la vérité est derrière. Mais est derrière, n'est pas cachée. Elle est derrière, mais n'est pas cachée. Voilà ce qu'il entend. Sans doute plus transparent que la beauté. Transparent, voilà, il le dit. Mais qui reste néanmoins des voiles. Des voiles. Non, des voiles blancs, bien sûr, des voiles blancs mouillés. C'est plus facile. Nous voyons plutôt en eux un monde intermédiaire entre beauté et vérité. Dans celui-ci, une fusion de Dionysos et d'Apollon est possible. Oui, oui, dans ce cas, oui, bien sûr. Ce monde se manifeste.
Johnny, tu veux. Là, s'il vous plaît. Ce monde. Ah, bon, allez. Allez-y, professeur Schmitt, bien, parce que là, c'est un peu... Vous me faites marrer, mais... Soyez sérieux. Mais ce n'est pas moi qui rigole. Ce monde se manifeste dans un jeu avec l'ivresse, non pas dans une immersion complète en elle. Non pas dans une immersion complète en
elle. Non, elle est avec, monsieur. C'est ça, ce jeu, cette dualité qui est renferme... Non, qui est derrière ce voile transparent et... qui influence positivement, harmonieusement, et qui influence par le chaos, en allant dans ses côtés les plus invisibles, comme vous avez pu dire, Johnny Beck, dans les barges passées, afin que notre soi, nous découvrions notre soi, qui peut être le mal d'Eusis, oui, comme disait Mircea Eliade, oui.
Thank you. Nous avons pu écouter... Quel est le titre de Tracy Beck? On a écouté Baya de John Coltrane. Oh yeah. Quand il était au label Prestige. Très, très, très bon morceau. J'ai beaucoup aimé aussi. Oui. Donc, je vais continuer. Je me permets de continuer. Allez-y. C'est votre truc. Hein. C'est votre truc, Nietzsche. Oh, merci. Donc, je continue avec Mircea Eliade, de son histoire des croyances et des idées religieuses. Le numéro 2, cette fois. Oui. Il ne l'a pas parcouru, Johnny Tibet. Apollon avait une certaine relation avec l'Hadès. Hadès, qui était le dieu des enfers, savez-vous. Et c'était Apollon. D'autre part, il avait fini par faire la paix avec Dionysos. Ça, c'est important. Oui. Ils avaient compris que Apollon, du moins, qu'il ne servait à rien de la guerre ne mène à rien. La guerre intérieure ne mène à rien. Mais il faut vivre avec ses mauvais penchants. Donc, il avait accepté les phénomènes que proposait Dionysos. Et qui aurait dû influencer le monde entier, mais qui n'a influencé que certains dieux de l'époque hellénique. D'autre part, il avait fini par faire la paix avec Dionysos, comme je viens de dire, qui voulait être admis par les Olympiens. Ce rapprochement des deux dieux antagoniques n'est pas sans signification. Peut-être l'esprit grec exprime-t-il par là son espoir de trouver, par le biais d'une telle coexistence des deux dieux, la solution aux crises déclenchées par la ruine des valeurs religieuses homériques. Donc, mais là, c'est les guerres, en fait. C'est pas la paix intérieure, ça empêche, ça enlève. Enfin, dire ça en tant que guerre. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin, les 80 ans du débarquement en Normandie par les troupes américaines, alliées, devrais-je dire plutôt, excusez-moi. Alors que cette émission sera diffusée dans un mois, n'est-ce pas ? Plus d'un mois, courant juillet. Donc les guerres, je pense, sont terminées. Il ne faut pas rêver. Mais c'est la paix intérieure. Mais après, sans les guerres, d'où le titre de cette page, l'ensemble de la guerre. Oui. L'ensemble de la guerre vient de l'être humain. Je ne vous apprends rien. Non, c'est comme ça. Mais si nous sommes en guerre à l'intérieur de nous, nous reproduisons ce schéma. Bien sûr. Nous reproduisons ce que nous voyons. L'image est très, très importante. Les influences d'un film de pistolet va nous faire prendre un pistolet pour tuer notre voisin. Même si on l'aime beaucoup. Non, on va vouloir le tuer parce qu'on l'a vu à la télé. Mais oui, c'est con. C'est comme ça. Mais oui. C'est comme ça. Juste 1941. Oui, 1941, j'ai dit mec. Ça fait de moi que j'ai 83 ans. Oui. 83 ans. Je sais ce que je raconte. Je sais ce que je dis. Oui. Donc, d'ailleurs, tiens, je vais voir ça, c'est très très bon. Dans son chapitre, les épreuves du judaïsme, le seul espoir, chapitre 203, la fin du monde. Présent dans son chapitre, les épreuves du judaïsme. Et tout comme dans la tradition iranienne, à la fin du monde aura lieu le jugement universel. Donc également la résurrection des morts. Car c'est cette fin eschatologique qui va nous permettre de renaître, de recommencer. Mais ce que je veux tuer c'est que cette mort, c'est métaphysique. C'est maintenant qu'on doit mourir pour renaître demain, dans une heure, dans cinq minutes. Oh, ça fait peut-être un petit peu juste. Mourir et renaître dans cinq minutes, il y a beaucoup, quand même beaucoup de questions qui doivent tomber. Hein. Et généralement, on ne choisit pas le moment où on meurt. Non. On se calme, professeur. Donc, je ne vous connaissais pas comme ça. Un coup, vous êtes hyper joyeux, un coup, vous êtes un peu... On se calme. Oui, je m'en vais. Oui. Oui. J'ai beaucoup de choses en tête. Oui. Je trouve inadmissible. Inadmissible. Les gens, comme ils peuvent se comporter. Rien va leur faire tourner l'esprit. Et donc, je refais pareil. Oui, je suis.
Oui, donc je continue avec ce que je vous disais. Cette pluie qui est tombée, oui. L'eschatologie métaphysique, c'est pas... Personne n'y croit à cette fin du monde, à cet apocalypse. Non, mais non, parce qu'elle est très, très mal expliquée, si je peux me permettre. On va pas tous mourir, pas une météorite qui va tomber. Non, mais non, ça s'est déjà fait. Non. Non, c'est à l'intérieur de nous, la révolution à l'intérieur de nous, mais... Donc maintenant, dans le chapitre des nouvelles synthèses iraniennes, oui, toujours de Mircea Eliade, tome 2 des croyances, selon la théologie mazdéenne, le temps non seulement est indispensable à la création, non, ça va, évolution, mais c'est lui qui rend possible la destruction et l'éviction du mal. En effet, Orzmad a créé le monde afin de vaincre et d'anéantir le mal. Le monde a été créé parce qu'il y avait du mal. Et c'est à lui, au monde et à ses habitants qui s'appellent les hommes, l'être humain, les humains, l'humanité et les animaux. J'ai vu qu'il y avait un parti animaliste aux européennes. On est en juin, on vote dans 3 jours. Je crois que j'ai voté pour eux d'ailleurs. Oui. Oui, j'aime beaucoup les animaux. Oui. En effet, on a créé le monde afin de vaincre et d'anéantir le mal. La cosmogonie présuppose déjà une eschatologie et une sotériologie. C'est pourquoi le temps cosmique n'est plus circulaire mais linéaire. Mais je me rappelle, J.T. Peck, sur les lignes du cycle, vous disiez que les cycles, maintenant, ce n'était plus des cercles, c'est des lignes. Eh bien, vous aviez raison. Vous aviez raison, Johnny. Eh ben, ouais, j'ai souvent raison. Oui, je vois ça. Oui, ça va, ça va. Il y a un commencement sur cette droite et il y aura une fin. La durée temporelle est la conséquence indirecte de l'attaque d'Ayman. En créant le temps linéaire et limité comme l'intervalle dans lequel aura lieu le combat contre le mal, ah oui, au fond de la ligne, oui, très bien, il va conférer à la fois un sens eschatologique et une structure dramatique, guerre ininterrompue jusqu'à la victoire finale. Donc, pour vaincre le mal, nous devons, tel qu'il est dit dans ces nouvelles synthèses iraniennes par Mircea Eliade, dans les croyances, nous devons nous vaincre nous-mêmes afin d'arriver à l'harmonie ou au chaos total. Si on n'arrive pas à vaincre cette faculté du mal, on y arrivera forcément. Mais oui. Impossible n'est pas français, bien sûr. Oui. Oui. Ce qui revient à dire qu'il a créé le temps limité en tant qu'histoire sainte. C'est d'ailleurs la grande originalité de la pensée mazdéenne d'interpréter la cosmogonie, l'anthropologonie et la prédication de Zarathoustra. Zarathoustra, oui, très bien. Comme des moments constitutifs d'une seule et même histoire sainte. Eschatologie métaphysique, les cycles. Les cycles, il y a, oui, comme vous disiez, il n'y a plus de cycles. Enfin, les cycles se répètent, mais c'est sur la même chose, oui. Et pour. En fait, maintenant que le cycle est une ligne droite, il faut. Ça va être très difficile de sauter sur une autre ligne qui n'est pas visible, qui existe, mais qui n'est pas visible pour le. Se poser des questions, c'est ça, c'est très très bon, J.T. Peck, ce que vous avez dit. Oui, oui, très malin. Oui. Très très malin. Oui. Alors, pour continuer maintenant. Oui, je suis un peu fatigué. Oui, ouais, je vais continuer, je vois ça. Alors, je vais continuer avec la naissance du christianisme. Alors, bon, bah, il parle de Jésus, le début en 32 ou 33 de notre ère. Il donne un exemple. Jésus venait d'être crucifié. L'âge du Christ à sa mort est 33 ans, selon la Bible. Un peu plus loin, Jésus prêchait et enseignait dans les synagogues et en plein air, s'adressant surtout aux humbles et aux déshérités.
Et il écrit un peu plus loin, la renommée d'exorciste et de thaumaturge n'a pas été oubliée par les juifs, une tradition de Jésus, en fait, qu'il arrivait à soigner les gens, a été oubliée par les juifs. Une tradition du 1er ou 2e siècle mentionne Yeshu qui pratiquait la sorcellerie et égarait Israël. La prédication de Jésus ne tarda pas à inquiéter les deux groupes politiquement et religieusement influents, les pharisiens et les sadducéens. Et moi, je pense que c'est une des grandes raisons pourquoi la crucifixion de Jésus, quoi. C'était politique aussi. Moi, je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Si je le pense, c'est que je l'ai déjà lu, je l'ai déjà vu. Et un peu plus loin, il est certain que la prédication de Jésus, et peut-être même son nom, aurait sombré dans l'oubli sans un épisode singulier et incompréhensible en dehors de la foi. La résurrection du supplicié. La tradition transmise par Paul, il parle beaucoup de Paul, merci à Eliade, l'apôtre, et par les évangiles, accorde une importance décisive au tombeau vide. Parce que Jésus, après sa crucifixion, a été porté dans un tombeau et il a disparu. C'est quand même dingue. Mais est-ce que c'est réel? J'y étais pas, je ne peux pas savoir, mais j'aurais tendance à y croire. Ouais. Et aux nombreuses apparitions de Jésus ressuscité, quelle que soit la nature de ses expériences, elles constituent la source et le fondement du christianisme. La foi en Jésus-Christ ressuscité a transformé la poignée de fugitifs démoralisés en un groupe d'hommes résolus et sûrs d'être invincibles. On pourrait presque dire que les apôtres ont connu eux aussi l'épreuve initiatique du désespoir et de la mort spirituelle. Mort spirituelle, c'est un peu ce que vous disiez, professeur Schmuck. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, bien vu. Oui. Avant de renaître à une vie nouvelle, une mort métaphysique, une renaissance métaphysique, et de devenir les premiers missionnaires de l'Évangile. Donc après, sans les aller jusque-là.
Oui, mais c'est très bien, vous avez très bien compris, Johnny Tibbeck.
Oui, bah j'écoute, hein, je suis là. Voilà. Marion m'a dit Johnny fait la coupe et les cheveux. Je lui ai dit mamie, je n'en ai déjà presque plus. Avec lui, elle qui a 20 ans de plus. On se dit qu'avec un de moins, ça fait toujours un plus. Oh yeah! En tout cas, on fait de la radio. Depuis que le surf me fait très mal au dos. On chante et on anime des chroniques qu'on joue. Pour comprendre toute la musique autour de nous. La séquence du spectacle pour l'auditeur. Faut mettre ses fréquences par ordinateur. Plus besoin de se suicider. On est déjà tous morts à en crever. Oh yeah. Tout devrait changer tout le temps. Nous serait bien plus amusant. On avance à l'envers, on recule en marche arrière. J'étais fait mais loin devant, la vague rue ça avance au vent. Même si on se pose des questions, le monde tourne toujours en rond. Oh yeah.